De sang expatrié en Normandie, les aquarelles de Romaric François ornent jusqu'au 30 août les murs du musée Charles de Bruyère de Remiremont. Paysages ruraux et urbains, la trace du geste de Romaric François laisse transparaître une certaine douceur de vivre. Et qui de mieux placé pour parler de ses peintures que notre artiste ? Alors bonjour et bienvenue dans nos studios, Romaric François.
Oui, bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien, il fait très chaud.
Oui, en effet, il fait un petit peu chaud, d'autant plus que vous ne venez pas d'à côté, hein, puisque même si vous êtes né à Remiremont, vous êtes en Normandie.
Oui, l'endroit où il y a le plus de fraîcheur avec la Bretagne.
Et oui, en effet, on voit les irréductibles Bretons et Normands résistent encore à la canicule. Mais dites-moi, Romaric, de Remiremont à la Normandie, pouvez-vous nous retracer un petit peu votre parcours ?
Bah, j'ai passé mon enfance à Remiremont jusqu'au baccalauréat. Et que j'ai passé à Épinal. J'ai fait mes études à Nancy et mon premier job à Paris. Et le hasard un peu de la vie m'a amené en Normandie où j'ai exercé le métier pendant 42 ans d'architecte. La peinture est aussi a une place importante dans ma vie parce que c'est un loisir, mais ça devient presque un métier parce que j'enseigne actuellement des cours d'art plastique, peinture à l'huile et aquarelle en Normandie à Beau-Guillaume, à côté de Rouen.
Vous avez fait des études d'architecture à Nancy.
Oui.
Et il me semble que vous avez ça dans le sang, n'est-ce pas ?
Ben, j'avais un grand-père qui était architecte et qui a orné un peu la ville de Remiremont par des bâtiments un peu emblématiques, comme la Caisse d'épargne et la Salle des fêtes, qui sont place de la mairie. Je pense qu'elle s'appelle place Christian Poncelet maintenant. Donc effectivement, j'ai été un peu bercé enfant par ces métiers-là. Et puis bah, peut-être qu'il explique aussi, peut-être que j'ai fait des études d'architecture par la suite.
Oui, je suppose. Et je pense aussi que ce bagage d'architecte a aiguisé votre œil et qui rend justement vos paysages urbains tellement remarquables dans vos aquarelles.
Oui, c'est certain, je suis un peu à l'aise avec les constructions, avec la perspective. C'est des choses que j'ai appris dans mon métier d'architecte ou dans mes études. Mais en même temps, j'aime bien les ambiances urbaines. J'aime aussi les personnages. J'anime souvent mes aquarelles avec des personnes, avec des gens, des voitures, des choses comme ça. Je ne les gomme pas. Si elles sont là, je les dessine.
Vous peignez de l'aquarelle, mais j'ai cru comprendre en off aussi que vous faites de la peinture à l'huile. Alors, est-ce que parmi les deux, vous en avez un de prédilection ?
Oui, je pense que maintenant, j'ai tendance à préférer l'aquarelle. J'ai commencé effectivement par la peinture à l'huile, également par la gouache, que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce support, la gouache, un petit peu différent de l'aquarelle parce que ça masque un petit peu, c'est plus présent que l'aquarelle, moins liquide. J'ai fait aussi une exposition à Remiremont à l'occasion du carnaval vénitien où j'avais présenté une quarantaine de peintures à l'huile. Mais pour des raisons de facilité, il y a moins de matériel. C'est plus mobile, c'est plus facile de dessiner en ville, en faire des croquis urbains, tout ça. Je trouve que l'aquarelle s'y prête mieux. On peut mettre tout le matériel dans un coffre de voiture sans souci. Et puis, on peut s'installer un petit peu où on veut. Alors qu'avec la peinture à l'huile, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ça sèche moins vite. Il faut presque un atelier quoi, pour travailler correctement.
Il y a plus de contraintes, mais pour avoir essayé, l'aquarelle est un médium qui pardonne assez difficilement. Un trait mal placé, une couleur sombre placée là où devrait se trouver une couleur claire. Comment est-ce qu'on peint avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ?
Alors, c'est vrai et faux en même temps parce que, par exemple, tout le monde pense qu'une aquarelle, on ne peut pas la retoucher, on ne peut pas y travailler davantage, on ne peut pas superposer des traits, des couleurs, des trucs. À l'expérience, c'est faux un peu parce que moi, j'apprends, par exemple, à mes élèves à retirer de la peinture, pas forcément toujours en mettre. Parce qu'il y a des techniques qui permettent de retirer de la peinture. On trempe son pinceau, on va le mettre dans la peinture et on éponge en fait une couleur. Donc on peut aussi enlever, ça s'appelle même des techniques de travail négatif où on va rechercher la peinture ou les pigments pour revenir dans des tons plus clairs. Et ça, le grand public, les gens pensent que c'est irréalisable, mais... Tout s'apprend, hein. C'est des techniques qu'on apprend petit à petit et que je transmets à mes élèves, bien sûr.
Et que vous nous avez transmis aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça, Romaric. Vous avez parlé justement du fait que c'est un petit peu moins encombrant de peindre en extérieur en aquarelle plutôt qu'avec de l'huile. Je souligne d'ailleurs que vous avez des formats assez grands, donc pas forcément très faciles à transporter. Mais comment ça se passe, une de vos déambulations, un jour où vous voulez peindre ?
Alors, j'ai des tréteaux portatifs spécialisés pour l'aquarelle. C'est en métal, c'est assez léger. Donc ça, il suffit après d'avoir une chaise pour s'asseoir, une petite table ou quelque chose de léger pour mettre ses peintures, l'ensemble de son matériel. Mais il m'est arrivé de faire des peintures assis sur le bord d'un trottoir, dans un inconfort total. Ça, c'est une question d'habitude. J'ai énormément peint dans la rue avec un matériel quand même relativement léger, hein.
Mais vous parlez justement de positions assez inconfortables. Le travail d'un artiste prend tout le corps. Il y a la trace du geste, il y a tous les sens qui sont en exergue. J'aimerais incarner vos sens. Comment ça se passe, votre immersion dans le processus créatif ?
Alors, au départ, aujourd'hui, le fait d'être professeur a fait un peu évoluer ma technique et la façon de travailler. Mais au départ, je dessinais toujours de façon très spontanée, à l'encre de Chine directement, sans faire de dessin au crayon préalable. Je dessinais, j'avais un trait qui n'était pas forcément sûr, mais je le corrigeais et ça ne me gênait pas, par exemple, d'avoir deux ou trois traits pour dessiner une forme. Les grands peintres, Léonard de Vinci, entre autres, d'autres aussi prestigieux, multipliaient les traits par moment. Dali, on le voit dessiner des chevaux, des choses avec des cercles qu'il conjugue. C'est vraiment des techniques qu'on apprend, mais s'il y avait des erreurs, tant pis, je suis toujours parti de ce principe-là.
Donc l'imperfection d'un tableau ou d'une peinture, d'une aquarelle, fait aussi son charme.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a différents styles en peinture. Mon style n'est pas du tout perfectionniste, même si j'ai une certaine fidélité pour les constructions, les villes, les perspectives. J'ai pas un dessin hyper fouillé de type hyper réaliste photo. C'est des choses que je trouve magnifiques, mais qui manquent de vivacité pour moi. C'est trop une copie de l'existant. Je préfère l'interpréter, moi, en fait.
L'interpréter avec plus de spontanéité et d'authenticité.
Oui, sans doute. J'espère, en tout cas.
Eh bien, c'est ce qui se ressent dans les aquarelles que j'ai pu aller voir. Et avant de parler plus précisément, non pas du processus, mais du rendu, de ce qu'on peut aller voir, j'ai envie de proposer une petite pause musicale et on va se passer un morceau que vous m'avez suggéré, Breakfast in America de Supertramp. Toujours sur Radio Gemozo avec Lou. C'était Breakfast in America de Supertramp et nous sommes toujours avec François Romaric, peintre aquarelliste qui expose en ce moment au musée Charles de Bruyère de Remiremont. On a parlé juste avant, Romaric, de votre parcours et un peu votre univers. J'aimerais qu'on aborde un petit peu cette fois la partie visible de l'iceberg, à savoir les réalisations. Donc, j'ai dit que vous avez des aquarelles urbaines, des aquarelles des paysages urbains, pardon, et de nature. Quelques croquis, quelques paysages un petit peu plus vivants avec des personnages, mais aussi, vous êtes des Vosges à Rouen, voire même à New York, vous avez voyagé, Romaric.
Oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'aquarelles de différentes régions, des Vosges, Remiremont et les Vosges. Mais la Normandie, bien sûr, parce que j'y réside, j'y habite. Mais aussi, j'ai souvent été attiré par les villes qui mettaient un peu en avant la peinture, des villes comme Saint-Tropez, comme Collioure, comme Honfleur en Normandie. Ce sont des villes un peu de peintres. Et moi, j'aimais bien l'époque où tous les peintres peignaient dans la rue, les gens leur achetaient les peintures facilement, bon, c'est moins facile aujourd'hui.
Ça se voit en effet un petit peu moins, mais c'est un petit peu comme vous, comme si vos aquarelles étaient votre carnet de voyage.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu plus long que faire une photo aujourd'hui, c'est tellement rapide. Mais c'est mes photos à moi. En général, quand je vais à un endroit, je fais souvent quelques aquarelles. Et c'est plus long à faire, mais c'est pérenne dans le temps parce que ça reste, ça devient un objet auquel on peut regarder plusieurs fois. On l'accroche, on met dans un cadre, on met ça au mur. Ça fait partie un petit peu de son décor, de sa maison ou son appartement. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus que la photo, parce que la photo a tellement facilité d'accès. On stocke tous des centaines de photos dans ses iPhones et tout. Mais finalement, on les oublie un peu, on ne les regarde plus. On les fait trop vite, en fait.
C'est vrai, ça permet un petit peu de se poser, de prendre le temps et de s'imprégner du paysage auquel vous voulez donner vie sur votre papier. Et oui, vous aviez parlé de photographie. En effet, il s'agit de figer en quelque sorte dans le temps un moment que vous voyez, un moment devant lequel ou que vous vivez plus d'une fois. Vous avez parlé de Rouen, ville dans laquelle vous avez vécu un certain temps. Alors vous connaissiez par cœur toutes les rues et peut-être tout à coup, votre regard est attiré par une maison à colombage que vous n'aviez jamais vraiment regardée avant ou la lumière qui touche la flèche d'un clocher, j'imagine.
Exactement. Alors je vais vous faire une petite confidence, Lou. Quand j'ai décidé de peindre Rouen, à l'époque, j'avais une de mes filles qui avait une dizaine d'années et qui avait une trottinette. Et avec ma fille, on a fait des repérages de la ville en se promenant. Elle était contente de faire de la trottinette dans les rues pavées avec des colombages dont vous parliez. Mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert Rouen. On y a fait plusieurs fois. On y est allé une bonne dizaine de fois. Et ça m'a permis, en fait, de voir quels étaient les endroits qui m'attiraient, que je trouvais remarquables et qui soient expressifs, en fait, de la ville. Et à la suite, quand j'ai regardé et photographié ces peintures, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un recueil d'aquarelles de la ville, parce qu'elles sont représentatives de la ville à un moment donné, parce que bon, après, les commerces évoluent, changent de propriétaire. J'avais peint, par exemple, le premier métro de Rouen était bleu, et aujourd'hui, il est blanc. Donc, mais on est aussi un petit peu témoin du temps quoi, qui passe.
Oui, comme toutes les peintures, comme toutes les photographies d'antan, vos aquarelles, Romaric, sont aussi un autre témoin du temps qui passe.
Oui, certainement. Notamment les choses qui évoluent. Alors, je mets souvent la date. Hein, quand je fais une peinture, je mets la date. J'ai retrouvé la première aquarelle de Rouen que j'ai faite, elle est en 1981, c'est-à-dire qu'il y a 44 ans maintenant. Et il y a déjà dans cette petite aquarelle d'une petite rue qui s'appelle la rue des Chanoines, c'est une toute petite rue de Rouen, il y avait déjà un peu l'esprit que j'ai poursuivi par la suite de décor de la ville. Et elle est intéressante parce qu'en fait, c'était la première, finalement.
Donc, une manière, encore une fois, de redécouvrir avec un regard neuf hein, tous ces endroits que vous connaissez si bien. Vous qui faites, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, de l'aquarelle urbaine et de l'aquarelle rurale, est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre ou juste une différente sensibilité en fonction d'un certain moment de la journée ou simplement une humeur du moment tout court?
Alors, les gens qui parlent de mes peintures à une certaine époque trouvaient que mon style ressemblait à la bande dessinée. Parce que comme j'utilise de l'encre de Chine en même temps que l'aquarelle, quand j'ai des personnages, j'ai tendance à les dessiner avec un contour d'encre de Chine. Finalement, on retrouve un petit peu la technique de Tintin et Milou, les techniques des grands illustrateurs. Donc en fait, ce style-là a été assez proche. Bon, aujourd'hui, j'ai tendance à partir davantage vers des paysages, des choses comme ça, pour trouver des sujets à mes élèves, en fait. Parce que En aquarelle, je travaille en même temps que mes élèves sur le même sujet, de façon à aborder les problèmes de façon commune. Et je trouve que c'est une bonne méthode pour apprendre aux autres l'aquarelle, en fait.
Vous avez parlé un petit peu du style Tintin et Milou, du style bande dessinée, mais en faisant un tour sur votre compte Instagram, il y a une aquarelle qui m'a particulièrement marquée. C'est un paysage urbain, certes, mais un petit peu à la sauce abstraite à la Robert et Sonia Delaunay.
Ah oui, oui. Alors ça, c'est un exercice que j'ai fait avec mes élèves. En fait, on partait de peintres, en l'occurrence Sonia et Robert Delaunay. On essayait de bien comprendre comment ils travaillaient avec les couleurs, les formes, la géométrie. Et j'ai appliqué ça à un bâtiment emblématique de Rouen, qui est le Gros Horloge. Donc, c'était un exercice intéressant parce que c'était plus que de la copie. La copie d'un style ou d'une manière de faire adaptée à une photo d'aujourd'hui. Et dans ce tableau, je ne sais pas si vous avez regardé de façon très pointue ce tableau, mais il y a une partie de terrasse de café avec des personnages et il fallait que je les transforme en figures géométriques. Donc ça, c'était assez amusant à faire.
Tout un exercice, en effet. Est-ce que d'ailleurs, vous avez une appétence ou un certain amour de peintre d'antan ?
Oui, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup les peintres. Je suis souvent... j'aime bien connaître aussi un peu leur vie, parce que souvent, ils ont des vies qui sont un peu difficiles. Notamment, là, en ce moment, je me suis renseigné un petit peu sur la fin de vie de Gustave Courbet, qui a été très embêté parce qu'on lui a dit qu'il avait détruit la colonne Vendôme. On lui a fait reconstruire, on lui a saisi 350 peintures. Ah oui. Et il a participé financièrement à la reconstruction. On a dit que c'était lui le responsable de la destruction, alors qu'en fait, il avait au contraire dit aux émeutiers de démonter les morceaux petit à petit, les conserver, etc. Donc il a voulu la défendre et on lui a fait reconstruire. Ça a ruiné sa vie, il en est mort. Ça l'a ruiné, ce truc-là.
Et pourtant, un grand maître reconnu, entre autres, son tableau Enterrement à Ornans. Actuellement au musée d'Orsay, il me semble.
Oui, c'est vrai, il a des magnifiques peintures. C'est un très grand peintre, mais on ne connaît pas trop cet épisode de la Commune, là, où,
non,
en fait, avec les communards, ils ont abattu le symbole qui était Napoléon, les victoires de Napoléon. Et c'est une place magnifique, la place Vendôme à Paris, c'est splendide, hein.
À propos Paris et Place Vendôme, parmi les aquarelles qui sont exposées, il y a aussi certaines aquarelles qui représentent Paris, dont Notre-Dame.
Oui, exact. Alors Notre-Dame, je vais dire Lou, hein, parce que maintenant je vous connais. J'ai peint j'ai peint un coucher de soleil,
oui.
Mais en fait c'est amusant parce qu'après, quand on a vu ce drame affreux de la flèche qui tombait là dans l'incendie, c'était horrible, on sent des couleurs de feu presque dans cette aquarelle, c'est un peu le hasard, mais je sais que quand il y a eu cet épisode, j'ai ressorti mon aquarelle, je l'ai installée dans le mur de mon bureau d'architecte à l'époque. Et je l'ai conservé tout le temps de l'émotion, en fait.
Oui, j'imagine que ça devait être quelque chose de voir Notre-Dame brûler et de voir aussi que...
Oui, j'ai vécu ça à la télévision, hein,
oui.
En direct. Mais le moment où la flèche s'est effondrée, on entendait la réaction des gens dans le public qui criaient. C'était très impressionnant.
Et cette aquarelle, peinte en soleil couchant avec le ciel très violet, la cathédrale et les lumières un peu jaunes, hein, je pense que
oui, c'est ça.
Ce qui peut induire en fait ce côté très flamme, très sur le point de brûler en fait. Et le orange et le violet sont des couleurs assez complémentaires qui donnent un gros contraste, qui donnent aussi certainement un petit peu cet effet. Je ne peux pas dire prémonitoire, mais que oui, il y a la flamme.
C'est aussi du jaune orangé, rouge.
Oui. Des couleurs violet, très chaudes.
Pas trop de violet, je crois pas.
Le ciel, du moins le ciel, moi, comme ça, je le vois.
Un petit peu.
Un ciel qui tire en effet sur le violacé. Et en autre violacé, là, par contre, j'ai trouvé ça dans les aquarelles qui sont, encore une fois, exposées au musée Charles de Bruyère. Les peintures de New York, elles, je les ai trouvées dans des tons assez violets et gris.
Oui, alors pour New York... En fait, il s'est passé un événement intéressant sur une des peintures de New York, celle où on voit la statue de la liberté. Mm-hmm. En fait, y a un phénomène que connaissent un peu les aquarellistes, c'est quand on met une couleur claire sur une couleur foncée, il peut se produire ce qu'on appelle des auréoles. Et dans ce tableau-là, il s'est produit des auréoles que j'ai trouvées surprenantes. Alors, souvent, le réflexe du peintre, c'est de remouiller cet endroit-là pour la faire disparaître. Mmh. Mais je les ai conservés en me disant peut-être que j'en tirerais quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure qu'elles séchaient, elles étaient de plus en plus irisées, de plus en plus intéressantes dans les détails qu'elles faisaient. Et je les ai conservées dans cette peinture. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas trop à transmettre à mes élèves. Parce que quand c'est ça, ils ont envie de tout de suite gommer, remettre de l'eau et tout. Ils comprennent pas que ça peut être intéressant.
Oui, par expérience, je confirme, ça peut être très frustrant ne pas vouloir voir ce que l'inattendu et l'imprévu puissent donner. D'ailleurs, contrairement à New York, où il y a même, vous avez un certain nombre d'aquarelles qui représentent des architectures, pas beaucoup d'architectures plus récentes, mais ça m'a frappé. En effet, vous avez des aquarelles avec encre de Chine et sans encre de Chine. Est-ce qu'il y a un choix délibéré dans le fait d'utiliser ou non de l'encre de Chine ?
Alors, j'ai toujours aimé faire des tableaux à l'encre de Chine préalablement, parce qu'en fait, si on a, je crois qu'on a un peu de temps entre nous.
Oui.
Mais j'ai peint beaucoup dehors, à l'extérieur. Et puis, j'ai regardé aussi d'autres peintres qui peignaient à l'extérieur. Et souvent, les peintres, quand le public venait les voir, ils disaient « Ah ben, mon tableau est en cours d'élaboration. Revenez dans une heure ou dans deux heures, parce que là, vous verrez le truc fini, bien, nickel, tout ça. » Et en fait, moi, je me suis dit « Les gens, ils peuvent venir à n'importe quel moment. » ils vont regarder 5 minutes et puis après ils vont continuer leurs occupations. Mais il faut quand même qu'il y ait toujours un truc un peu à leur faire voir, quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que j'ai lancé très vite le dessin. Et même par moments, la qualité du dessin faisait que dans certains cas, quelques fois, je me suis arrêté au dessin parce que finalement, il était construit, il avait sa force et ça pouvait très bien rester comme ça. Quelquefois aussi, j'ai pris des photos intermédiaires que j'ai ressorties après pour les retravailler. Mais je me débrouillais toujours pour que finalement, les gens qui passaient un peu à n'importe quelle heure, ils ne savaient pas quand vous aviez commencé, où vous en étiez. Et quand même toujours un truc intéressant à voir. Mmh. Et c'est, finalement, ça a conduit un peu à une technique. J'ai été aussi influencé par des peintres allemands. Notamment en Forêt Noire et un peintre de Munich avec qui j'ai échangé un petit peu par la suite qui faisait aussi comme par hasard il était également architecte mais il avait un dessin à l'encre de Chine et puis de l'aquarelle et il maniait très très bien les deux. En plus lui, à la différence de moi, il écrivait beaucoup de textes y compris dans son tableau. où il expliquait les choses en allemand, bien sûr.
Oui.
Alors, j'imagine. Moi, j'ai un peu simplifié ça. Hein, mais je mets toujours une légende, vous l'avez peut-être vu. Il y a toujours une petite légende dans ma peinture.
Ah oui, certainement. En tout cas, je demande aux auditeurs, ou je propose aux auditeurs, d'aller regarder aussi pour voir ce que racontent toutes ces petites légendes. Romaric, on a parlé oui, un petit peu de tout ce que vous faites et des peintures de Rouen. Et il y en a une qui m'a vraiment frappée, qui est pour moi qui sort vraiment du lot. C'est une peinture qui est divisée en deux. La partie supérieure est rouge, la partie inférieure, on dirait un océan déchaîné bleu, et l'océan est transpercé par la flèche de la cathédrale de Rouen. Pour moi, c'est une aquarelle qui est vraiment à part. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa création ?
Alors, j'ai fait plusieurs peintures un petit peu dans cet esprit-là. Notamment, j'ai peint La Bouille aussi. Et La Bouille, c'est une petite ville le long de la Seine, un petit peu après Rouen. À un moment où il y avait une Coupe du Monde de foot, la première, là où on avait été champion.
Et avec, 98.
Voilà, en 98. Et en fait, j'avais peint bleu-blanc-rouge, mon tableau. Et j'en ai fait plusieurs comme ça. Et donc, j'ai eu toute une série de peintures avec les couleurs du drapeau français. Et là, on n'est pas en bleu-blanc-rouge, mais presque, parce que le tour est blanc. Et puis, les deux contraintes sont rouge et bleu. Mais il y a aussi, si vous regardez dans le détail, il y a un décor quand même de Rouen, un petit peu à l'encre de Chine, dans la partie inférieure du tableau.
C'est très léger en fait. Moi j'ai vu un tableau presque comme le randonneur devant la mer de nuages de Caspar David Friedrich,
oui.
Que vous étiez peut-être sur un point sur le dessus. Le soleil allait tout doucement se lever et... Rouen est noyé par une mer, un brouillard, dont seule la cathédrale, la flèche de la cathédrale dépasse. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu et que je l'ai ressenti.
Oui, c'est vrai, vous avez l'œil juste. Tu as l'œil juste.
Est-ce que parmi tout ce que tu as peint, il y a une aquarelle ou un moment qui t'a marqué ? Ou une aquarelle que tu portes particulièrement dans ton cœur, comme l'aquarelle de Notre-Dame de Paris, à laquelle tu as été très attachée au moment de son incendie. Est-ce qu'il y a un petit peu un tableau doudou, ou peut-être plusieurs, qui t'accompagnent ?
Je ne vais pas répondre directement là, mais en fait, quand on regarde un artiste connu... on va prendre Claude Monet ou des gens comme ça. Ils ont une œuvre magnifique dont on ne connaîtra jamais les tenants, les aboutissants, l'intégralité des tableaux tellement ils en ont fait. Mm-hmm. Ils ont été disséminés dans le monde entier, etc. Mais on en a une vingtaine, une cinquantaine peut-être maximum quand on s'intéresse davantage. Mais on n'a jamais la vue global de ce que peut produire un peintre de son vivant. Alors, quand c'est des gens comme Picasso, voire Dali, des gens comme ça, ils font des milliers de peintures. Hein, donc, il faudrait... Alors, il y a plein de choses. Moi, j'ai une peinture, justement, par rapport à Dali, j'ai peint une nature morte avec du pain, parce que... Alors, il y a du pain, il y a une bouteille de vin avec un verre, et puis du fromage, je crois. Et en fait,
oui, tu parles de la composition. Moi, j'avais cru que tu utilisais du pain pour peindre.
Mais je vois, par exemple, Dali aimait beaucoup le tableau qu'il avait fait d'une corbeille avec un pain à l'intérieur. Mm-hmm. Et il l'avait offert à Gala, sa femme. Mm-hmm. Et c'était un des... Et justement, moi, ce tableau-là, le pain est vraiment bien réussi. C'est quelquefois la magie. Hein, et ce tableau-là... Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde ce tableau, il y a beaucoup de reflets blanchâtres et dans la nuit là, qui entourent le tableau. Et il y a une personne qui a dit « Mais on voit un cheval dans votre ombre, là. » Alors, ça m'a un peu perturbé à l'époque quand on m'a dit ça. Et en fait, je le vois maintenant, le cheval.
Le cheval est apparu comme par magie. Avant qu'on embraye sur la suite, sur éventuellement des petits tuyaux, vu que tu nous en as donné un en tout début d'émission, je propose une autre pause musicale.
Merci.
Alors, on va s'écouter un morceau. Il s'agit de Bittersweet de Brian Ferry. Et on se retrouve tout de suite sur le 107. Toujours sur le 107, c'était Bittersweet de Brian Ferry. Nous sommes toujours avec Romaric François, aquarelliste, qui expose encore jusqu'au 30 août au musée Charles de Bruyères de Remiremont. Romaric, vous êtes toujours avec nous, je crois.
Oui, je suis là encore.
La pause musicale vous a évoqué quelque chose en particulier. Vous aviez une ou deux anecdotes à me donner à propos de Brian Ferry.
Bah, j'utilisais souvent ce fond musical quand je faisais de la peinture à l'huile. Mm-hmm. Bon, maintenant, l'aquarelle, Comme j'exerce dans une salle de cours, on ne passe plus de musique en fait. Donc on le fait, on discute beaucoup par contre, parce que les cours sont très animés, très sympas. Mais on ne le fait plus en musique. Mais quand je travaillais à la peinture à l'huile, j'aimais beaucoup avoir un support musical. Ça m'aidait, je ne sais pas pourquoi.
Mais... Oui, la musique a quelque chose d'assez transcendant, on va dire. C'est stimulant, ça permet aussi d'entrer dans une transe.
Oui, puis ces musiques-là n'ont pas des mélodies... vraiment directives, en fait. C'est presque un accompagnement, mais qui ne nécessite pas d'avoir l'esprit à les écouter particulièrement. Donc, c'était un confort pour mon activité.
Activité que vous
J'ai essayé plusieurs musiques, hein, mais oui. Celle-là, elle me revenait assez facilement.
Oui, il y a des morceaux avec lesquels on a plus ou moins de sensibilité, et c'est le cas justement de Brian Ferry. On a annoncé les petites anecdotes, peut-être les petits tips de peinture, si vous êtes toujours partant, Romaric.
Oui, pour les peintures ?
Oui, à la rigueur, pour les auditeurs qui ont envie d'essayer l'aquarelle, qui ne savent pas vraiment par où commencer, ou qui, comme moi, ont tendance à jeter leur calepin quand ils en ont assez, parce qu'il y a encore une erreur, il faut encore recommencer. Vous avez une ou deux petites astuces que vous vouliez proposer, je crois, en off.
Ce qui est important dans la peinture, pour moi, mais bon, je ne suis pas le seul à penser ça, c'est le dessin est quand même très important. Donc, il faut bien maîtriser le dessin. Mm-hmm. Il faut s'entraîner. Hein, c'est un petit peu comme le piano ou un art autre. Hein, il faut de l'exercice, il faut s'entraîner. Il faut quand même bien maîtriser le dessin. Alors, comme je suis architecte, j'apprends à mes élèves de faire de la perspective. Ils s'arrachent les cheveux souvent quand on leur parle de ça, parce qu'ils ne comprennent pas trop tout, de fuite, les machins. Mm-hmm. Pour eux, ça semble un peu obscur, tout ça, ils ne comprennent pas. Il y a un petit côté géométrie, maths, qui est un peu rébarbatif. Mais il faut quand même essayer. Alors... un conseil que je donnerais aux gens qui veulent démarrer, mettez-vous à la fenêtre de votre appartement ou de votre maison et dessinez ce que vous voyez dans la rue ou... et vous verrez, c'est un bon exercice.
Oui, il faut bien commencer quelque part. En lisant un petit peu les descriptifs qu'il y a dans le musée, non seulement vous avez dit que vous aviez mis, je crois, 20 ans à apprendre à dessiner ou à peindre en 2 heures, je crois que ça vient de Gustave Courbet. Cette citation.
Oui, il y a Gustave Courbet. Il y a aussi un peintre qui s'appelle Dillet, qui lui disait « il faut 30 ans pour faire un bon peintre ». Mais quand il disait ça, il avait 80 ans. Alors, c'est plus facile quand on a 80 ans de dire « il faut 30 ans pour faire un bon peintre » que quand on en a 20, parce qu'on n'imagine pas qu'on va travailler jusqu'à 50 ans pour faire ça.
Non, en effet. Oui, on a parlé, justement, vous avez dit, vous dessinez avec le, comment dire, c'est pas tout à fait irrémédiable l'aquarelle, même si le trait à l'encre de Chine, pour moi, il pardonne pas. Il y a peut-être un certain lâcher prise aussi, comment dire...
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison.
Ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu,
voilà.
Ou se dire...
Il faut arriver, et moi, ça m'est très courant. Il y a des moments où j'ai l'impression que ma main dessine toute seule, sans mon esprit, sans le côté cartésien. Et ça, c'est très important parce que la plupart des difficultés que rencontrent les débutants, c'est qu'ils ont un esprit cartésien qui leur dit « c'est pas bien ce que tu fais, c'est moche, c'est raté, et je vais déchirer ça ». Et en fait, il faut arriver à avoir un côté émotionnel, en fait. Alors, on parle du cerveau droit, du cerveau là, qui est adapté pour ça. Mais il ne faut pas être trop cartésien. Il ne faut pas vouloir copier trop. Moi, je demande toujours à mes élèves de réinterpréter, de le faire à leur façon, à leur idée. Ils peuvent copier des grands peintres parce qu'on on va gagner du temps dans les compositions, dans des tas de choses, on va gagner plein de trucs. Mais j'aime quand ils y mettent du leur et qu'ils dépassent la copie pour faire vraiment des choses qui sont un reflet d'eux. Quand on a fait un tableau qu'on pense réussi, on a l'impression qu'on se voit en fait quelque part. Moi, je sais que les petits personnages, tout ça, ça fait partie peut-être de l'intérêt que j'ai pour les gens, etc. Des gens déprimés, ils vont faire des fumées d'usine dans leurs tableaux, qui vont montrer un peu le côté noir des choses. C'est aussi un reflet, hein. C'est un miroir finalement, un petit peu de notre... Il y a peut-être un talent au départ pour certains pour faire des choses, mais il ne faut pas avoir peur d'y mettre soi-même, en fait. Hein. C'est important pour moi.
Oui, en effet, on peint peut-être avec sa main, mais aussi avec ses tripes. Vous avez évoqué un tout petit peu plus tôt que la peinture, le style de peinture est le reflet un petit peu de ce qu'on est. Je rebondis très rapidement, c'est la parenthèse histoire de l'art, sur Francisco de Goya, qui est notamment connu pour le 13 des maillots, qui, après avoir été frappé soudain de cécité, tous ses sens ont été coupés. Quand il a retrouvé petit à petit la vue, mais par contre, il était définitivement sourd. Ces tableaux sont devenus très sombres, dont un tableau que j'aime particulièrement, c'est Jupiter dévorant un de ses fils, qui est réellement le reflet de son mal-être.
Ah oui, oui, c'est impressionnant. J'ai vu aussi toute cette série de tableaux au Prado à Madrid. Il y a tout un étage qui lui est consacré, c'est affreux, on le voit manger ses enfants, là, il y a un ogre, mais il n'y a pas que celui-là, les autres sont aussi assez terrifiants.
Oui, sa période très sombre, sa période
mais
de fin
c'est un
vie.
Grand peintre, c'est certain.
Et encore une fois, ne pas avoir peur justement d'y mettre sa personnalité, parce qu'une peinture, c'est le reflet de soi.
Oui, oui, sûrement, oui. On sent la personnalité d'un peintre dans ses tableaux. Bon, qu'est-ce qui rend attachant Van Gogh c'est dans sa peinture, on imagine toujours tout de suite le personnage. C'est pas simplement sa peinture en plus le côté tragique où quand il élaborait ça, tout le monde pensait que c'était des tableaux ratés, alors qu'en fait ils ont valu des fortunes et ils valent encore des fortunes aujourd'hui.
Oui, lui qui déteste tant la nuit étoilée qui est pourtant maintenant acclamée.
Oui, alors il paraît qu'il mettait des bougies sur son chapeau. Hein.
Ah.
Saviez ça?
Non, pas du tout.
Donc il mettait des bougies, il plantait des bougies sur son chapeau, il les allumait pour avoir la lumière dans la nuit étoilée qui peignait.
Oh bah c'est une belle anecdote, merci beaucoup Romaric. Et encore une fois, ne pas avoir peur, oui, d'y mettre sa personnalité, ses appétences, sa sensibilité, comme on a vu avec vous, surtout pour les paysages urbains. Je reviens beaucoup dessus par rapport à votre passé professionnel et même familial en tant que... architecte.
L'architecte, oui.
Mais il y a aussi, contrairement en fait aux paysages urbains, il y a les paysages ruraux. Donc il y a les paysages de plage là où il y a du monde, effectivement, la plage l'été, il y a du monde. Mais il y a ces autres paysages un peu hivernaux, isolés le long de cours d'eau ou de chemins de forêt, où on se sent vraiment seul au monde. Ça fait un gros contraste.
Oui, j'aime beaucoup peindre la neige aussi. Hein. Peut-être c'est mon côté vosgien, ça. Hein. Mais j'aime beaucoup les paysages de neige. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas du blanc. Hein.
Non.
Il y a toutes les couleurs. Il y a un peu de blanc quand même. Mais j'aime beaucoup la neige. J'aime beaucoup les paysages vosgiens. Hein. Il y a des choses magnifiques dans les Vosges. Et quand je suis en Normandie, je parle beaucoup de la Lorraine, des Vosges, de Remiremont. Et des fois, ils en ont un peu marre que je leur parle tout le temps de Remiremont. Mais ici, je parle un peu de Normandie, donc ça compense.
Oui, vous ramenez les Vosges dans vos bagages en Normandie. Et quand vous êtes dans les Vosges, c'est la Normandie que vous ramenez avec vous.
Oui, un peu, oui.
Après tout, ce sont deux de vos pieds-à-terre.
J'aime beaucoup, j'aime énormément la ville de Rouen. Hein. Je trouve que c'est vraiment une ville formidable. On peut se promener de tas de fois, de tas de manières différentes dans Rouen. C'est ça qui est bien, parce que je vois par exemple, premièrement, c'est une petite ville où on va forcément passer par les arcades. Rouen, c'est la rue du Gros Horloge, on est obligé de passer dedans, c'est la rue piétonne. Mais il y a des tas de chemins de traverse et tout, un peu moins évident dans une petite ville. Mais Rouen est magnifique pour ça. C'est une des villes françaises qui a le plus grand trésor du Moyen-Âge encore. Il y a des maisons de 1450 qui sont encore présentes, oui. en bois, hein, qui ont été admirablement conservées.
Wow.
Et les gens vivent avec, c'est les rues principales. Alors que la ville a été partiellement détruite, incendiée pendant la dernière guerre mondiale, là. En 40-45, la moitié de la cathédrale à la Seine, tout a été détruit, hein, et reconstruit.
Donc Rouen a été une grosse partie de votre vie, évidemment, votre vie professionnelle. Mais capitale de la Normandie oblige, vous ne vous êtes pas arrêté justement au panneau de la ville de Rouen. Vous avez exploré un petit peu plus loin pour continuer à peindre cette autre région qui vous tient à cœur.
Alors, oui, c'est bien ce que vous dites sur les paysages, parce que si on prend Rouen, par exemple... Au nord de Rouen, en fait, à Rouen passe la Seine. Hein, la Seine passe à Paris, elle redescend jusqu'au Havre, et en passant par Rouen. Et Rouen, du côté nord de la Seine, ça s'appelle le Pays de Caux, c'est le pays des falaises, où il y a la plus célèbre Étretat, bien sûr.
Ah oui.
Et dans la partie basse, c'est le Calvados, c'est en fait des plages de sable, parce qu'en fait, le sable de la Seine a été drainé par les bateaux. Il faut savoir que les bateaux, ils remontent jusqu'à Rouen. Donc en fait, tout ce sable-là a été projeté sur les plages qui vont de Honfleur à Cabourg jusqu'à Caen presque. Tout ça, c'est des plages de sable, dont Deauville, Trouville et Cabourg, bien connus pour Marcel Proust notamment.
Toutes ces petites aventures, tous ces voyages par lesquels vous nous emmenez à travers vos aquarelles. Et avant le petit mot de la fin, il me semble qu'on voulait s'écouter un autre morceau. Il s'agit de Dolce Vita de Ryan Paris, si ça vous va, Romaric.
Oui.
Et on se retrouve juste après.
I'm so alone in the Dolce Vita. This magic's gone and don't you be tired. Nobody else than you. It's all a star. Like in a Dolce Vita, nobody else than you. It's all a star.
Vous êtes toujours sur Radio Gemozo, c'était Dolce Vita de Ryan Parry. Nous sommes toujours avec Romaric François. D'ailleurs, pendant la pause, Romaric, vous m'avez donné quelques petites anecdotes à propos de ce morceau.
Oui, c'est un morceau que j'entendais très souvent dans l'émission Le Pop Club de José Arthur quand j'avais une vingtaine d'années. On aimait bien écouter ça, ces radios... qui était pourtant officiel parce que c'était la maison de la radio à Paris, mais c'était tardif et il y avait des musiques qu'on n'entendait pas ailleurs. Et le fait d'être dans un studio de radio m'y fait penser doublement.
J'imagine que ça doit faire remonter beaucoup de souvenirs.
Oui, c'était un petit peu précurseur des radios locales, des radios privées, des radios pirates. Il y avait aussi une émission sur un bateau entre la France et l'Angleterre, là, vers les îles anglo-normandes. Mm-hmm. C'était en pleine effervescence à cette époque-là, hein, la radio.
Dans tous les cas, donc, vous avez dit, c'est l'émission Le Pop Club.
Oui, Le Pop Club de José Arthur.
Et on peut toujours trouver des archives.
Et il y avait une chanson qui disait « La vie serait moins dure si... » Ça serait bien dur si l'on n'avait pas le Pop Club avec José Arthur.
Ah, c'est mignon comme tout. Eh bien, Romaric, je pense que nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Romaric François, donc aquarelliste, qui expose toujours jusqu'au 30 août au musée Charles de Bruyère. Romaric, qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
Une belle finition de cette exposition qui m'a permis de retrouver... Des gens qui ont connu mes parents, mes grands-parents, les plus anciens d'entre eux. Bon, c'est ouvert aussi aux touristes, aux gens qui passent dans ce très beau musée.
Oui, l'entrée
donc
est
c'est intéressant, ça m'a fait vivre, je vous ai rencontré aussi.
Aussi, oui, très très belle rencontre.
Ça permet de faire des belles rencontres. Et puis, je tenais à exposer un jour à Remiremont. Je l'avais déjà fait par le fait carnaval vénitien, mais je voulais un peu montrer le côté aquarelle que je n'avais pas montré à la première expo.
En tout cas, ce qu'on souhaite aussi, Romaric, c'est peut-être que vous reveniez de nouveau dans quelques années exposer dans les rues de Remiremont.
Oui, c'est pas impossible.
On ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais.
Non, exactement.
Dans tous les cas, Romaric, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie très sincèrement de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, de nous avoir emmenés dans vos bagages de Remiremont à New York en passant par Rouen et la Normandie. Ce sera toujours possible donc de vous voir au musée Charles de Bruyère de Remiremont jusqu'au 30 août. En attendant, je vous souhaite aussi une très bonne fin d'exposition et... A très bientôt, j'espère, sur le 107.
Oui, merci beaucoup, Lou.
Thomas.